Ce soir, le Canadien de Montréal affronte les Sharks de San Jose. Le Canadien n'a pas gagné depuis 20 ans du côté de San Jose. Comment se fait-il que le Canadien n'arrive pas à gagner de match? Comment expliquer cette situation? Daniel Brière est avec nous. Salut, Daniel.
Salut, Jérémy.
Daniel, est-ce que tu as des réponses? Comment ça se fait? Comment se peut-il qu'un club perde à la même place pendant 20 ans?
Ben, j'ai pas vraiment de réponse, mais j'ai des expériences qui me rappellent certains de ces souvenirs-là, que ce soit avec le Canadien, avec les Flyers, avec les Sharks. Je me souviens qu'il y avait des arénas où on allait jouer, où on semblait jamais capable de figurer une façon de l'emporter, même quand on jouait bien. Puis à l'inverse, il y a le contraire aussi. Il y a des endroits où on allait jouer, puis même si on jouait mal, même si on l'avait pas ce soir-là, on dirait que les choses tombent en place pour trouver une façon de gagner. Donc, je suis pas capable, moi non plus, d'exactement l'expliquer, mais je le sais que c'est vrai, je le sais que ça se passe pour le vrai, puis que les joueurs le ressentent dans certaines arénas.
Mais San Jose, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec San Jose?
Non, puis écoute, 20 ans, quand on parle de 20 ans, là, il y a des années où les Sharks ont eu beaucoup de difficultés, là, ça allait pas bien, puis était peut-être pas nécessairement la meilleure équipe, mais trouvait tout le temps une façon de battre le Canadien. Non, je sais pas exactement comment l'expliquer. Des fois c'est les match-ups. Moi, je me souviens où il y a certaines équipes où on allait jouer, puis le match-up était juste pas bon. Tu sais, on entend souvent parler dans les séries, des fois, faut que tu tombes au bon endroit pour affronter une équipe où t'as du succès parce que certains trios font bien contre certains joueurs. Je pense que ça a peut-être plus à faire à voir avec ça. Peut-être que du côté du Canadien, tu sais, un joueur comme Joe Thornton, qui ça fait des années qu'il est là, Patrick Marleau qui était là pendant longtemps, peut-être que ces joueurs-là avaient toujours beaucoup de succès, se sentaient bien à affronter le Canadien. Pour moi, là, c'est une des façons peut-être d'expliquer un peu là, quand des équipes se retrouvent dans des séquences comme ça.
Donc, duel de ce soir entre le Canadien et les Sharks, et je ne sais pas si tu as vu les informations, mais Jesperi Kotkaniemi a été sur la passerelle lors de la victoire face aux Kings et sera encore sur la passerelle ce soir, il y a 18 ans. Comment tu évalues cette situation-là?
Ben écoute, pour moi, ça change pas que la saison de Kotkaniemi a été un succès. Il a rendu de fiers services, il a aidé énormément le Canadien à se rendre ou à être en position qu'ils le sont présentement. On a entendu Claude Julien dire qu'il semblait avoir perdu un peu d'entrain là, les derniers temps. Donc lui donner un peu de repos. Tu sais, quand on lui donne seulement un match de repos, je suis pas sûr que c'est la recette. Peut-être de lui donner 2, 3, 4 matchs de repos va pouvoir l'aider un peu plus. Mais il faut pas oublier que Jordan Wheel a quand même bien joué à son premier match à Los Angeles. Il a marqué un gros but aussi. Donc, tu sais, c'est dur de sortir un joueur comme ça là, qui arrive, qui a peut-être un peu plus à prouver, qui est gonflé à bloc parce que il veut démontrer là, à ses nouveaux boss qui veut rester dans l'alignement, qui peut rester dans l'alignement. Donc, écoute, c'est une, je te dirais, une décision normale là, de voir Will rester au même endroit, puis Kotkaniemi encore un autre soir sur la passerelle.
Mais Daniel, dis-moi, tu as vécu l'expérience d'être mis sur la passerelle, puis tout le monde dit, puis je veux qu'on brise un mythe, quand tout le monde dit, ah, mais tu sais, c'est bon, on apprend quand on est sur la passerelle, est-ce qu'on apprend pour de vrai?
Écoute, j'ai de la misère un petit peu avec ça moi-même. Pas sûr que les joueurs, surtout un jeune de 18-19 ans qui va prendre le temps de s'asseoir puis d'épier ce que les joueurs vont faire. Souvent, moi, je me souviens quand j'étais laissé de côté, souvent, j'étais dans le gymnase à regarder le match sur la télévision. C'est pas là que j'ai appris énormément. Je pense que ça fait plus de bon sens quand on dit qu'il a besoin peut-être de retrouver son entrain, qu'il a besoin de retrouver de l'énergie, qu'il est peut-être brûlé un petit peu. C'est peut-être juste un petit break pour lui donner la chance de refocuser plus que par le fait qu'il va pouvoir apprendre en regardant de la passerelle. Je suis pas sûr, moi, que ça aide énormément parce que de nos jours, avec toutes les vidéos, les entraîneurs passent sûrement beaucoup, beaucoup de temps avec ce jeune-là pour lui montrer chaque shift qu'il va prendre sur la patinoire là, les derniers temps. Il va apprendre beaucoup plus là que de regarder un match de la passerelle.
Oui, clairement. Mais surtout, il a fait preuve de maturité parce que lorsque les journalistes l'ont rencontré, il a dit « Je comprends la décision des entraîneurs. Ils ont un plan pour moi et j'ai regardé le match et c'est vraiment plus lent quand tu le regardes d'en haut. » Donc, ça veut dire qu'il a compris un peu comment ça se passait.
Oui, écoute, il embarque dans le jeu avec ses entraîneurs. Puis s'il a vu ça, oui. Puis, tu sais, maintenant que je suis passé de l'autre côté d'un joueur à la haute direction, je peux comprendre. On regarde les matchs du haut de la passerelle, puis les matchs semblent tellement lents. C'est tellement facile de la passerelle d'évaluer les joueurs. Je me souviens quand je jouais, le jeu se passait pas mal plus vite que ce que je vois aujourd'hui.
Daniel, t'imagines-tu sur le divan à la maison comment c'est facile?
Ouais, je peux imaginer. Mais écoute, c'est bon, comme tu as mentionné, il démontre beaucoup de maturité déjà pour son âge. Je pense pas qu'on a à s'inquiéter dans le cas de Kotkaniemi. Les choses vont revenir. Puis si vraiment là, c'est plus difficile pour lui jusqu'à la fin de la saison, ça n'enlève pas que cette première saison-là, là, ça a été un succès pour lui. Ça va l'aider. Je pense qu'il va être un rouage très, très important pour les 12-15 prochaines années là, pour le Canadien de Montréal. Donc, c'est très, très encourageant dans son cas quand même.
Mais Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retiré Kotkaniemi de la formation. Tu l'as mentionné, Jordan Wheel a connu un bon match. Et par le fait même, il a entraîné dans son sillon Jonathan Drouin qui, lui, avait besoin d'être un peu plus intense pendant les rencontres. Il a du talent. C'est un gars qui est deuxième pointeur de l'équipe. Comment tu vois cette situation-là du manque de constance de Jonathan Drouin?
Ben, constance puis confiance aussi, je te dirais, tu sais, il y a des hauts et des bas. On voit ça régulièrement surtout pour des joueurs offensifs parce que, tu sais, un gros joueur qui est là juste pour amener de l'énergie, qui est là pour frapper, qui est là pour jeter les gants, t'es beaucoup plus en contrôle qu'un joueur qui doit marquer ou qui doit produire des points soir après soir. Donc, dans le cas de Jonathan, je te dirais que c'est peut-être aussi beaucoup la confiance qui est affectée. Puis le fait qu'on amène un jeune comme Will, qui a beaucoup d'énergie, puis je suis certain que quand Kotkaniemi va revenir dans l'alignement, il va avoir, lui aussi, il va vouloir rester dans l'alignement, donc il va avoir beaucoup à prouver. Ça, des fois, ça peut être bon pour des équipes. Ça amène les joueurs à se pousser les uns les autres. Ce qui fait que l'équipe joue mieux en général. Donc, ça peut être juste une bonne chose, d'après moi, là, de ce côté-là, de voir un gars comme Will s'amener, aider Drouin, parce que lui aussi, là, il est descendu du top 6 et tombé sur la troisième ligne. Donc, lui aussi, je suis certain qu'il aime pas ça. Donc, il sent qu'il a approuvé, il sent qu'il doit améliorer son jeu là, dans les prochains matchs.
Oui, parce qu'on aura besoin de lui. Le classement est extrêmement serré dans l'Est. On le sait, les Pingouins, le Canadien, même nombre de points. Première, deuxième équipe repêchée, suivie par les Blue Jackets de Columbus. Écoute, juste ce soir, le Columbus qui affronte Pittsburgh, les deux vont s'affronter à nouveau. De vendredi, les Hurricanes qui affrontent les Jets. Écoute, avec une course aussi serrée, est-ce qu'à un moment donné, tu deviens à bout de souffle?
Non, moi je crois au contraire. Puis tu sais, je l'ai vécu à quelques reprises. J'ai souvent, c'est sûr qu'il y a des exemples où les équipes sont arrivées en série complètement mortes puis sans énergie. Mais j'ai aussi vécu le contraire quand une équipe se bat puis joue des séries dans le dernier mois de la saison puis arrive en série gonflée à bloc parce que eux autres sont déjà en mode série depuis un mois, sont beaucoup mieux préparés pour affronter, surtout si on affronte une équipe comme Tampa Bay. Oui, le Lightning est excellent, puis c'est une bonne équipe, puis on va s'attendre à ce qu'ils gagnent leur première ronde, mais disons qu'ils affrontent le Canadien en première ronde. Des fois, là, on peut voir, surtout en début de série, l'équipe là qui s'est battue jusqu'à la fin, avoir peut-être être mieux préparée pour jouer là, surtout les deux premiers matchs en séries éliminatoires. Puis ça peut surprendre des fois.
Oui, ça peut surprendre. Il faut avoir l'énergie nécessaire. Je regarde les Hurricanes de la Caroline. Ils sont vraiment portés par leur victoire. Tu as vu les célébrations qu'on fait à domicile, le Bunch of Jerks. Ouais. Est-ce que tu y crois, ça, à ce genre de team building qu'on est en train de monter, entre autres du côté des Hurricanes de la Caroline?
Ben, c'est intéressant. On m'a posé, il y a plusieurs gens qui me posent la question. Honnêtement, je suis pas sûr que je serais confortable d'être dans leur situation. Je suis pas sûr que je serais confortable d'être un joueur qui doit se lancer là, dans tous ces jeux-là. C'est pas vraiment ma personnalité. Sauf qu'on peut voir que ça construit un bel esprit d'équipe. Les joueurs semblent tous embarqués. Puis ils sont partis, sont un peu sur un air avec tout ça. Je dis pas que c'est à cause de tout ça, mais je suis sûr que ça aide beaucoup pour l'esprit d'équipe. Donc, moi, j'ai pas de problème qu'on fasse. Là, de bord, ça reste toujours respectueux envers les équipes adverses. Moi, j'ai pas de problème avec toutes ces scènes-là qu'on fait, mais personnellement, je suis pas sûr que je serais confortable là, moi-même à avoir à embarquer dans tous ces jeux-là.
Sauf que les organisations, puis écoute, tu fais partie maintenant d'une organisation, tu es de l'autre côté de la clôture, je suis convaincu que vous travaillez très fort pour trouver des moyens pour faire en sorte que vos joueurs s'unissent. Ouais. C'est ce qui se passe là-bas. Est-ce que le team building, ça, c'est-tu quelque chose que tu crois?
Ouais, ben écoute, oui, ça c'est très très important. Puis il y a deux aspects, il y a l'aspect, il y a les entraîneurs, puis il y a le côté hockey où tu essaies de créer cet esprit-là, cet esprit de famille, cet esprit d'équipe qui peut pousser les choses beaucoup plus loin pour une équipe là, pour renforcer les liens. Puis il y a l'autre côté aussi, côté business qui amène l'équipe marketing. Qui tombe, écoute, pour eux autres, là, c'est du bonbon, c'est du luxe là, d'avoir puis on l'a vu après ce que Don Cherry a dit, ouais. On a utilisé ses propres mots pour vendre des t-shirts, pour faire de la publicité à travers tout ça. Donc, il y a aussi le côté business là, de chaque équipe, de chaque formation. Pour eux autres, écoute, c'est de l'or là, ce qui se passe avec leurs joueurs, ce qu'ils démontrent, ce qu'ils font. Ça peut pousser très, très loin des fois puis amener beaucoup plus de revenus pour l'équipe.
Donc, Daniel, si je comprends, tu n'aurais pas été en plein centre de la glace, tu as fait passer le KO par Evander Holyfield.
Non, je suis pas sûr que j'aurais voulu être le joueur qui mange le coup de poing sur le menton pour cette show-là, disons.
Hey, c'est incroyable, mais juste terminer là-dessus, là, eux autres, il y a quelqu'un qui doit se creuser la tête à savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Tu sais, il faut que tu trouves quelque chose de mieux à chaque fois. Ils ont frappé fort avec Holyfield, ils ont frappé très, très fort. Bon, OK.
Exact.
On laisse ça de côté. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Carey Price. Ce ne sera pas du match ce soir face aux Sharks de San Jose. Évidemment, c'est Antti Niemi qui sera là. On va le garder pour le duel face aux Ducks d'Anaheim. Mais quand même, Price, avec la victoire face aux Kings, a atteint le total de 314 victoires, égale Jacques Plante pour le plus grand nombre de victoires dans l'histoire du Canadien. C'est une relation amour-haine entre Carey Price et Montréal. Est-ce que ça prend juste une Coupe Stanley pour que tout le monde se mette à dire que Carey Price est le meilleur gardien de l'histoire du Canadien?
Ben, probablement que oui. C'est sûr que ça aiderait. Même avec ça, je suis sûr qu'il va tout le temps avoir des doutes. Mais quand même, là, ce qu'il a fait. Puis, tu sais, faut pas oublier là, le Canadien avec toute l'histoire de leur gardien. On parle de Jacques Plante, on peut penser à Ken Dryden, Patrick Roy et compagnie. Le Canadien, l'organisation du Canadien a eu des gardiens de rêve là, au cours de plusieurs années. Il n'y a pas beaucoup de formations qui a eu autant de bons gardiens. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait mal à Carey Price, mais il n'y a pas de doute que Carey Price, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire, pas juste du Canadien, mais dans la Ligue nationale en général. Quand il va se retirer, il va être reconnu là, comme, je dirais pas, peut-être le meilleur gardien ou même dans le top 3, mais il va faire partie de l'élite de l'histoire des gardiens de la Ligue nationale. C'est quand même tout un gardien de but. Puis encore là, le 314 victoires, c'est quand même très, très impressionnant.
Bien, c'est impressionnant, et d'autant plus, c'est de faire ça à Montréal. Tu connais le marché montréalais. Oui. Ce gars-là doit performer parmi nous qui sommes maniaco-dépressifs. Une journée, on aime, l'autre journée, on haït. Mais, tu sais, on fait des blagues avec ça, mais c'est pas facile de performer dans ce temps-là.
Non, bien, écoute, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait, oui, année après année. Puis moi, ce qui m'a impressionné, lui, quand j'ai eu la chance de jouer avec lui à Montréal, c'est son calme. C'est pas une personne, disons, qui s'énerve. C'est pas une personne qui a de la difficulté à contrôler les hauts et les bas. Il est toujours pareil à chaque jour dans la chambre avec ses coéquipiers. Il a toujours été un excellent coéquipier en passant également. Donc ça c'est impressionnant parce que s'il serait, disons, à San Jose, à Los Angeles, à Phoenix, où il peut disparaître, où personne ne le reconnaît, je dirais que ce serait probablement beaucoup plus facile de vivre sa vie. Mais il y a quelque chose de spécial à faire partie du Canadien de Montréal. Il y a quelque chose de spécial, disons, de faire partie de cette histoire-là, de jouer devant un public qui démontre autant de passion et d'émotion envers son équipe. Ça, c'est spécial aussi. Puis je suis sûr que si vous demandez à Carey Price s'il avait le choix, probablement, j'en suis convaincu qu'il aimerait mieux jouer à Montréal que d'être disparaître dans des endroits comme San Jose où personne ne le reconnaît. Donc, oui, des fois, c'est difficile, mais en quelque part, comme joueur, là, de faire partie d'une organisation où les gens vraiment tiennent à cœur ce que tu fais, il y a quelque chose de spécial avec ça aussi, puis je suis sûr qu'il en profite puis qu'il l'apprécie énormément.
Daniel Brière, c'est toujours un plaisir. On te souhaite une agréable soirée et au plaisir d'avoir la chance de te reparler aux amateurs de sport. Merci beaucoup, Daniel.
Toujours un plaisir. Merci, Jérémy. À bientôt.
Merci, Dan. C'est très bon.
Good, good. Ça fait plaisir.
Salut, ciao.
À bientôt. Bye-bye.